Tout mon être te loue, Seigneur, et chaque fibre de ma personne te rend grâce. Tu m'as choisi pour te servir et aimer les êtres humains dans leur tragédie et dans leur joie. C'est ma faiblesse et mon insuffisance qui appellent la puissance de ton esprit pour faire en moi des merveilles. Car ta miséricorde, ta bonté, ta fidélité accompagnent notre cheminement. Gloire à toi, roi des nations, Seigneur de l'histoire, tu es le Seigneur, le Dieu de l'histoire des nations, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous sauve encore aujourd'hui en nous faisant écouter ta parole. Amen.
Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixait le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Voici, dit-il, que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles. Puis tous ensemble, ils se jetèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient posé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saül. Tandis qu'il le lapidait, Étienne prononça cette invocation. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il fléchit les genoux et lança un grand cri. « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et sur ces mots, il mourut.
« Je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la cité. Dehors, les chiens, les magiciens, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime ou pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Je suis le rejeton et la lignée de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui le veut reçoive de l'eau vive, gratuitement. Je l'atteste à quiconque entend les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche aux paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la cité sainte qui sont décrits dans ce livre. Celui qui atteste cela dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. »
Le texte de l'Évangile, c'est dans Jean au chapitre 17, les versets 20 à 26. Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. Qu'ils soient en nous un, eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Père juste, tandis que le monde ne t'a pas connu, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Nous avons ici la conclusion, la fin de la prière de Jésus, prière qu'il a faite juste avant son élévation sur la croix. À l'intérieur de cette prière, nous voyons même qu'il dit « Je ne suis plus dans le monde, mais pourtant je dis ces choses dans le monde. » Il y a là un mystère, il est dans le monde et déjà plus dans le monde. Mais c'est pour que nous puissions entendre aujourd'hui encore comment Jésus prie. Comment est-ce qu'il prie pour nous? Et nous l'avons là, dans ce chapitre 17 de Jean. Comment Jésus prie pour nous aujourd'hui encore? Nous avons là donc la fin de cette prière. Ce n'est pas seulement la conclusion d'une prière, c'est la conclusion de tous les chapitres précédents, qui un enseignement très très long où il a commencé à enseigner, il a commencé cet enseignement en lavant les pieds à ses disciples pendant le dernier repas. C'est là que commence l'enseignement dont nous avons maintenant dans cette prière la conclusion. C'est dire l'importance de ces paroles que nous venons d'entendre. Dans cette prière, Jésus emploie plusieurs fois le mot « Père » pour s'adresser à Dieu. Dans le texte que nous avons écouté, nous avons trois fois cette interpellation de Dieu. Père. Et la dernière interpellation, au verset 25, Père juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Père juste. Il faut bien se garder d'interpréter ce mot juste selon notre imagination. Un père juste, nous imaginons le père avec le martinet. Et Jésus parle dans le langage de la Bible. Et si nous avons écouté le psaume 97, lu par Marc, au début de ce culte, nous avons le mot justice deux fois, une fois au verset 2, la justice et le droit sont l'assise du trône du Seigneur. Ce n'est pas un attribut de Dieu qui est secondaire, c'est le fondement de son règne. Et aussi au verset 6 de ce même psaume 97, qu'est-ce qu'il faut faire connaître partout dans le monde créé? Faites connaître la justice de ce Dieu qui règne. La justice de Dieu est notre salut, d'après la Bible. Nous avons même ainsi l'explication de ce verset dans 1 Jean, première épître de Jean. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Pardonner. Juste pour nous pardonner. Ça veut dire qu'il reste fidèle à sa nature qui est de sauver le pécheur. C'est la nature de Dieu, c'est le fondement de son règne, la justice. La justice de Dieu est une justice pour le salut. Voilà pourquoi Jésus finit la prière en donnant cet adjectif à son Père. Père juste. Nous voyons donc combien il est important de considérer Dieu comme Père. Car c'est comme ça que Jésus prie Dieu. Maintenant, considérons comment Jésus parle de nous dans cette prière. Il parle de nous. Même, c'est même très explicitement, nous les Tiernois, les Sarésiens, puisque nous faisons partie de ceux qu'il désigne comme ceux qui vont croire, non pas par sa parole directe, mais par la parole de ceux qui vont annoncer la parole, qui vont annoncer l'Évangile. Je prie pas seulement pour eux, dit-il, mais pour ceux qui, grâce à la parole des apôtres et de tous ceux qui vont être envoyés dans le monde pour prêcher la parole, ils vont croire en moi. Donc c'est nous, ça. Moi, je n'ai pas cru par la parole des apôtres, moi. J'ai cru parce qu'il y avait des chrétiens qui m'ont annoncé la parole. Et il leur a fallu beaucoup de patience jusqu'à ce que je croie. Mais voilà, la foi est intervenue et Jésus prie pour moi et il prie pour vous qui croyez. Il le dit explicitement là. Il prie pour nous. Et c'est très intéressant d'être attentif la façon dont il nous considère, lui. Comment parle-t-il de nous? Au verset 24, « Ce que tu m'as donné. » Voilà comment il nous désigne. Et le « ce », ça s'écrit « c-e », pas « c-e-u-x », « c-e ». Parce que, en grec, c'est un neutre. « Ce que tu m'as donné. » Voilà. Globalement, nous sommes ce que le Père a donné à son Fils. Nous, tous les croyants, que ce soit aujourd'hui, autrefois et dans le temps à venir, sont globalement désignés comme ça. Ce que tu m'as donné, ce que tu m'as donné, voilà comment Jésus nous désigne. Et nous, nous n'aurions pas écrit le texte comme ça. Nous aurions, nous, surtout les pasteurs, ceux qui viennent fidèlement au culte, on va prier pour ces gens. Ceux qui ne peuvent plus venir au culte, mais qui sont restés chez eux, on va prier pour eux. Ceux qui se sont convertis à la dernière réunion d'évangélisation, voilà, et vous, on pourrait faire beaucoup, beaucoup de... Non, pour Jésus, il n'y a pas de catégorie comme ça. Il n'y a qu'une catégorie. Une seule. Ce que tu m'as donné. Nous avons été donnés à Jésus, par Dieu. Nous sommes ce que le Père a donné à son Fils. Autrement dit, si nous pouvions vraiment nous considérer comme avec les yeux que Jésus pose sur nous, nous verrions des choses merveilleuses. Que rien n'est lié, même pas à notre conversion, même pas. Mais c'est lié au fait que le Père nous a donné à son Fils. Que de toute éternité, il y a un amour qui nous considère, avant même notre naissance, qui considère toute notre vie, qui nous considère à chaque heure, pour nous donner au Fils. Nous sommes donnés par le Père. Notre origine, elle est beaucoup plus loin que tout ce que nous pouvons savoir. Nous sommes de toute éternité enracinés dans un amour qui est celui du Père et qui nous donne au Fils. Jésus reçoit comme mission sacrée de s'occuper de nous. Ce que tu m'as donné, nous sommes donnés à Jésus par le Père. Donc notre salut se manifestera certainement par les conversions dont j'ai parlé, bien sûr. Mais il ne dépend pas de ça. Il ne dépend d'un acte de Dieu, d'une décision de Dieu qui nous échappe, qui précède notre vie et qui nous donne à Jésus. Donc c'est très important que Jésus s'occupe de nous, puisque nous lui sommes donnés. Ça se peut que nous pourrions penser que peut-être il en a marre à un moment donné de nous et dire « Oh non Seigneur, Père, ce que tu m'as donné là, vraiment. Oh. » Non, Jésus s'occupe de nous encore aujourd'hui. Nous sommes donnés à Jésus définitivement et il y a eu une hésitation, oui, à Gethsémané, « Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. » Mais il s'est repris. Il a dit non, pas ce que je veux, ce que toi tu veux. Et la coupe, il ne s'est pas éloigné de lui, c'est la coupe de la colère. La colère de Dieu contre notre péché. Et il l'a bu. Et ainsi, nous avons une garantie qu'il s'occupe de nous sans jamais faillir. Car l'hésitation, elle est déjà derrière lui. Il s'occupe de nous. Nous lui sommes confiés de A à Z jusqu'à ce que nous soyons avec lui dans son royaume. Et qu'est-ce que Jésus alors demande ? Nous avons vu comment il parle à Dieu, nous avons vu comment il parle de nous. Il fait la prière pour nous, à son Père. Et qu'est-ce qu'il demande ? Oh ben, il est très affirmatif dans ce qu'il demande. Est-ce qu'éventuellement, il dit, non, c'est pas comme ça qu'il parle à Dieu. Au verset 24, il dit, je veux ! Ah, c'est fort quand Jésus dit, je veux. Je veux ! Au verset 24, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donné, là c'est C-E-U-X, là, c'est ceux que tu m'as donné, soient eux aussi avec moi et qui contemplent la gloire, qui contemplent la gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Oh, là, on peut dire, oh là, ça c'est des... Attendez, faut écouter ce que Jésus demande pour nous. Sous prétexte d'humilité, on n'écoute plus la parole de Dieu parfois. Et là, l'humilité n'a pas sa place quand Jésus parle. La vraie humilité, c'est de recevoir la parole qu'il prononce. Cette parole nous met très haut. Là où je suis, je veux qu'il y soit. Alors, est-ce que nous sommes avec Jésus ou pas ? Nous sommes où ? Jésus est où plutôt ? Et à droite du Père.
Et nous sommes assis avec lui.
Et nous sommes assis avec lui. C'est un verset de la Bible que Gérard vient de nous rappeler. Nous croyons ça ou pas ? Je dois dire, je suis souvent incrédule. Mais la parole de Jésus est vraie. Je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient eux aussi avec moi. Alors nous y sommes. Nous n'avons pas fêté l'ascension, c'est dommage. J'en suis le premier responsable. Vous pouvez critiquer le pasteur, vous avez raison. De toute façon, vous avez toujours raison. Bon, il y en a qui doutent. Bon.
pas ce que ma femme me dit.
Ouais, c'est toujours raison. De toute façon, la sagesse juive, ça consiste à recevoir de tout le monde, à être enseigné, de se laisser enseigner par tout le monde, même ceux qui critiquent. Ah, il y a certainement quelque chose à recevoir. Oui. Bon, ça c'était pas prévu dans mon prédication.
On a l'habitude.
J'étais où là ?
On n'a pas fêté l'ascension.
On n'a pas fêté l'ascension, voilà. Donc, par contre, c'était une tradition ici de fêter l'ascension. Hein, ici, il y avait des grandes fêtes à l'ascension. Hein. Jésus bénissait ces réunions. Parce que vous aviez foi dans l'ascension. Et il faut continuer à avoir foi dans l'ascension, même si on ne fête plus. Il faut continuer à avoir foi dans l'ascension. Parce que là, nous sommes dans la période entre l'ascension et Pentecôte. Hein, voilà. Alors, Jésus nous définit aussi devant son Père comme ceux qui ont cru qu'il a été envoyé. Ça, c'est la définition qu'il donne de nous au verset 8. Eux, ils ont cru que tu m'as envoyé. Ils ont véritablement connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Nous voyons là quelque chose d'important. Qu'il ne suffit pas de croire en Dieu, c'est pas la foi chrétienne. Croire en Dieu, ça ne suffit pas. Les démons croient en Dieu, c'est pas ça. C'est pas la foi. La foi, c'est croire en Dieu, bien sûr, et aussi croire en celui qui l'a envoyé. C'est les deux. C'est les deux. Et cette foi-là, le Père a envoyé son Fils, c'est un miracle. Parce que quand les apôtres disent à Jésus « Ah, maintenant on croit, enfin !» Ils le disent « Maintenant on croit. » Ils le disent au chapitre 16, au verset 30. « Maintenant nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus met en doute. « Ah, vous croyez ? Non, non, vous allez me laisser seul. » Mais après, juste après, quelques versets plus loin, Jean 17, au verset 8, Jésus dit « Ils ont véritablement cru que je suis sorti de toi. » C'est lui qui détermine. Ce qui est la foi, il sait quand elle entre vraiment en nous, la foi en celui que le Père a envoyé. L'évangile de Jean est caractérisé par cette définition de la foi, de croire que Jésus est sorti du Père, et qu'il est venu dans le monde, et que maintenant il y a de nouveau auprès du Père, et qu'il a manifesté sur la croix, la gloire qu'il avait déjà. Il l'avait déjà auprès du Père. C'est marqué au verset 20, au verset 5. Père, maintenant glorifie-moi auprès de toi de cette gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Et donc Jésus, deux fois dans cette prière de Jean 17, parle de qui était avant que le monde fût. Il avait déjà la gloire qu'il avait auprès de Dieu. Il l'avait. Et sur la croix, nous ne voyons rien d'autre que la gloire qui était avant que le monde soit créé. C'est pas une petite chose, la croix. C'est pas juste une petite victime comme ça de l'injustice humaine. C'est ça aussi, bien sûr. Mais la Bible dit bien des choses là-dessus. C'est la gloire de Dieu, là. La gloire de Jésus avant la création du monde, quand vous regardez la croix. Voilà ce que dit l'Évangile. Et Jésus parle aussi dans notre texte là. Tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Et ça, c'est fondamental dans l'Évangile de Jean. Il est très différent des autres. Il les rejoint, mais il rajoute, il complète des choses que disent les autres. C'est un évangile qui va rester un témoignage, il se nomme pas évangile, c'est un témoignage avec lequel nous entrerons dans le royaume. Parce que nous retrouverons ce témoignage qui est écrit là, dans le royaume. Dans le royaume, il y a un témoignage. l'agneau est le témoin de Dieu. Ce témoignage, il est là, devant nous, par la parole, par le sacrement de la Sainte Cène. Pour ça, j'ai mis la Sainte Cène aujourd'hui après la prédication. Nous avons le témoignage dans la parole, dans l'écriture, et dans le sacrement de la Sainte Cène. Cette gloire, Jésus dit, il nous l'a donnée. Ça aussi, c'est dit explicitement. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Au verset 22. Nous croyons ça aussi. Jésus nous a donné la gloire que le Père lui a donnée. C'est le but de sa venue. Parce que la gloire, il l'avait avant la fondation du monde. Alors pourquoi venir dans le monde et repartir auprès du Père pour reprendre la même gloire? Il n'y avait pas d'intérêt à ce qu'il la garde juste pour lui. Il est venu pour nous la donner. Puisque la gloire, il l'avait avant, il l'a après. Alors pourquoi venir sur terre? Pour nous la donner.
Mathias, qu'est-ce que la gloire que Jésus nous a donnée?
Qu'est-ce que c'est la gloire de Jésus? La gloire, c'est être un avec le Père, hein, je dirais. Il y a tellement de définitions possibles, mais c'est d'être un avec le Père. En tout cas, c'est la croix. La réponse de l'Évangile, tu regardes l'élévation de Jésus sur la croix, c'est la gloire. C'est la gloire. C'est l'amour qui préexiste à la fondation du monde et qui nous est communiqué, et non seulement communiqué, mais qui va être actif en nous pour que nous puissions aimer de cet amour-là. Père Cantalamessa, à Vichy, c'était la semaine dernière, il a repris l'image d'un père de l'Église pour nous aider à croire des choses aussi merveilleuses. Il dit... Un père de l'Église a employé l'image du sport, des Jeux Olympiques. Et un sportif qui court le marathon et il gagne la médaille d'or. Mais lui-même n'est absolument pas intéressé par la médaille d'or. Alors il fait monter sur le podium et donne la médaille d'or à un de ses supporters. Et le père de l'Église dit, voilà comment vous devez considérer Christ. Ce qu'il a gagné, ça n'intéresse pas, c'est pour nous. Et c'est nous qui devons monter sur le podium et prendre cette médaille qui pour lui, c'est pas pour lui qu'il l'a gagnée. Et c'est bien ça qu'il dit ici, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Jésus nous l'a donnée. Nous sommes le lieu où il manifeste la gloire de Dieu. Et il veut que la contemple. Il demande que nous, au verset 24, Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils regardent la gloire, qu'ils la regardent, la mienne, celle que tu m'as déjà donnée, puisque tu m'as aimé avant la fondation du monde. Regardez cette gloire de Jésus élevé sur la croix. C'est être transformé à son image. C'est ce que dit un verset dans 1 Jean 3, 2. Mais bien-aimés, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est vrai, si on se regarde soi, si on regarde notre vie tous les jours, on ne voit pas la gloire. Bon, ok. Mais c'est pas, parce que ce n'est pas encore manifesté. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables, puisque nous le verrons tel qu'il est. Nous lui serons semblables, puisque nous le verrons tel qu'il est. Voir la gloire, c'est être transformé par la gloire de Jésus. Et quiconque fonde sur lui une telle espérance se rend pur, comme lui est pur. Vous avez vu dans le texte qui nous a été lu par Annie, Étienne, de son vivant, au moment où il est lapidé, il est transformé. Il devient glorieux ici sur terre, parce qu'il est en train de voir la gloire de Jésus. Amen.